France Inter. Bonjour, ravi d'être avec vous ce dimanche dans Questions politiques, l'émission de politique du dimanche sur France Inter, diffusée sur France Info, la télé, en partenariat avec le journal Le Monde. Au salon du Bourget, jeudi, Marine Le Pen et Jordan Bardella, complices dans les allées, comme pour contrer une petite musique tenace, une rivalité de plus en plus palpable dans un tandem devenu bancal entre une candidate naturelle mais dont l'avenir judiciaire est incertain et un dauphin à l'attitude trouble qu'il y a quelques jours souhaitait même une présidentielle anticipée, sans elle donc. Un tandem fragilisé face aux grands défis économiques et internationaux, un ordre mondial chaque jour bousculé. Cette nuit encore, cette intervention militaire des États-Unis en Iran. Pour en parler, Jean-Philippe Tanguy, député RN, est notre invité dans Questions politiques en direct et jusqu'à 13h.
Questions politiques. Élodie Forêt sur France Inter.
Bonjour Jean-Philippe Tanguy.
Bonjour Élodie Forêt.
Et merci beaucoup d'être
merci
avec nous. Bonjour Nathalie Saint-Cricq de France
Bonjour,
Télévisions.
Bonjour, nous précisons Élodie Forêt.
Oui, exactement, ils se sont trompés. Et Françoise Fressos du journal Le Monde.
Bonjour Élodie, bonjour à tous.
Allez,
bonjour
on va,
madame.
On va déroger un peu au principe de l'émission aujourd'hui, au vu de l'actualité. Pour commencer, je voudrais vous faire écouter le son de la nuit, le président américain Donald Trump, entouré du vice-président Vance et du secrétaire d'État Marco Rubio. Il s'exprime sur les attaques menées par les États-Unis contre l'Iran.
Notre objectif était de détruire la capacité d'enrichissement nucléaire de l'Iran et de mettre un terme à la menace nucléaire posée par le premier État soutenant le terrorisme dans le monde. Ce soir, je peux annoncer au monde que les frappes ont été un succès militaire spectaculaire. Les installations essentielles d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été intégralement et totalement détruites.
Et le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, vient de réagir. Il dit deux choses importantes. Un, que la France n'a ni participé à ces frappes, ni à leur planification. Et il exhorte les parties à la retenue. Vous, Jean-Philippe Tanguy, quelle est votre réaction?
Écoutez, c'est compliqué, parce que si on essaie d'être sincère, il faut bien dire que la destruction dans une opération militaire très impressionnante et, d'après les informations qu'on a pour le moment, très efficace, doit être salué, puisqu'on ne pouvait pas se permettre, et en fait c'est un peu ce qu'a dit le chancelier allemand, M. Merz, que le régime islamiste, cette théocratie épouvantable, et la bombe nucléaire, comme a pu l'avoir malheureusement le régime de Corée du Nord. Donc si cette opération se limite à cette destruction de sites et n'est pas le préambule à une guerre plus grave et surtout plus durable, ça peut s'arrêter là, on souhaite que ça reste là, et la position française devrait maintenant trouver une solution diplomatique pour définitivement arrêter ce programme et si possible arrêter ce régime d'ailleurs.
Vous approuvez ce qui s'est passé vendredi, c'est-à-dire l'Europe qui essaye d'amorcer des négociations sur le cas à Genève.
Ah, mais nous on soutient.
Vous êtes pour cette poursuite-là?
Nous on a toujours soutenu l'effort diplomatique des pays européens, bon, qui est très ancien quand même, parce que moi je pense que ça a plus de 20 ans cet effort des Européens, malheureusement ça n'a pas porté ses fruits, d'ailleurs faut aussi s'interroger à partir du moment où les États-Unis malheureusement avaient quitté le premier accord, pourquoi est-ce que les pays de l'Union Européenne, dont quand même, et je ne sais plus s'il y avait le Royaume-Uni dedans, mais en tout cas il y a la France, membre du Conseil de sécurité, qui avait intérêt avec la Chine à poursuivre cet effort de diplomatie, pourquoi on n'a pas réussi depuis maintenant 6 ans? Donc c'est quand même un problème que les diplomaties, dès qu'il n'y a pas les États-Unis, qu'on puisse pas aboutir à un accord de paix quel qu'il soit.
Et vous
un accord de désarmement.
Vous partagez cet appel à la retenue? Si vous étiez au pouvoir aujourd'hui, vous partageriez cet appel à la retenue?
Bien sûr, personne n'a intérêt, y compris le peuple iranien, à une guerre, une véritable guerre d'ampleur, encore pire, une guerre sur le terrain. Et si le programme nucléaire iranien, par cette intervention, est profondément stoppé, voire définitivement arrêté. Il faut en prendre acte, et il faut tout de suite enchaîner sur quelque chose. J'ai écouté attentivement ce qu'a dit le président Trump. Lui-même a bien insisté, visiblement, sur le fait que cette opération devait être ponctuelle, très impressionnante, mais ponctuelle, et qu'elle devait donner lieu, non pas à la poursuite des hostilités, mais à un désarmement définitif du régime iranien. On verra. Après, M. Trump avait dit qu'il lui fallait 15 jours pour intervenir, il lui a fallu un ou deux jours finalement. Donc,
c'était peut-être tactique.
Oui, non, mais c'est de, comment dire, sans mauvais jeu de mots, c'est de bonne guerre. Mais Maintenant, il faut en tenir les conséquences.
Quand Jean-Noël Barrot précise que la France n'a ni participé à ces frappes, ni à leur planification, qu'en gros, on est hors de tout cela, vous trouvez que c'est une clarification nécessaire ou vous vous dites simplement on est à côté de la plaque à chaque fois, on n'est jamais au courant?
Ah, il y a deux choses différentes. Qu'on ne soit pas associé à l'opération militaire elle-même,
ça, c'est, le...
c'est normal, puisque la France n'a pas à intervenir ici, ou en tout cas ne le souhaitait pas. Je ne pense pas que le peuple français aurait voulu qu'on intervienne.
Ça, vous êtes d'accord
sans
avec
débat.
Ça
oui. Les États-Unis, après, il faut être honnête, hein, n'ont pas besoin de nous. Parce que c'est aussi quand même la grande leçon.
Ils l'ont dit clairement, d'ailleurs.
Voilà, la grande leçon quand même de cette opération. Ah, moi, vous savez, je ne suis pas atlantiste loin de là. J'ai parfois des positions même très dures avec les États-Unis et leur politique internationale. Enfin, le décalage, le fossé entre les capacités militaires des États-Unis à elles toutes seules et des pays européens même unis de l'autre côté est quand même très impressionnant, mais aussi assez inquiétant, parce que ça veut dire qu'il n'y a que les États-Unis qui sont capables de mener un certain nombre d'opérations.
D'accord, mais en l'état actuel, est-ce que vous pensez qu'il faut quand même rapprochement États-Unis-Europe pour essayer de négocier, après les frappes, une initiative diplomatique, ou vous dites, au fond, maintenant c'est chacun pour soi et on reste comme ça?
Ah non, nous avons un intérêt commun, puisque même si on a des désaccords profonds, parfois avec les États-Unis sur leur interventionnisme, même si M. Trump ne se mettait pas dans cette philosophie-là, les valeurs, la défense de la démocratie et l'absence, comment dire, l'obsession que l'Iran ne doit pas avoir l'arme nucléaire devraient nous réunir. Bon, lors de son premier mandat, M. Trump était sorti d'un accord qui n'était surtout pas parfait, mais qui existait. Je pense qu'il regrettait, après, enfin, il a fait comprendre, on avait pu comprendre qu'il regrettait que de ne pas avoir eu d'autres accords. Une fois plus, on peut quand même s'interroger sur le fait que les diplomaties européennes n'aient pas réussi à prendre le relais. Aujourd'hui, il faut le faire, et c'est très urgent. Bon, contrairement à d'autres territoires où on avait pu intervenir ou qui a des menaces contre les pays et les démocraties occidentales, l'Iran est un peuple éduqué, un peuple solide, avec une vraie civilisation derrière. On peut espérer aussi que le peuple iranien puisse reprendre en main sa propre destinée face à cette théocratie. Il faut faire attention aussi, parce que moi, je me souviens de la première guerre du Golfe, où on a vu des interventions très efficaces en termes militaires contre le régime de Saddam Hussein. Les pays occidentaux, après, ne s'étaient pas souciés de la suite, et le régime de Saddam Hussein avait été extrêmement cruel contre ses opposants internes et avait mené un certain nombre de représailles très dures pour maintenir son régime. Il faut aussi être attentif à ça, parce qu'il y a en Iran des femmes en particulier, mais des hommes aussi, très courageux, qui défendent leur liberté avec leurs propres valeurs iraniennes. C'est pas un calque des valeurs occidentales, ça n'a pas à l'être. Et il faut aussi faire attention à ce que les opérations militaires n'aient pas comme, comment dire, lendemains très cruels et très sanglants pour les amoureux de la liberté en Iran.
Une dernière question sur le sujet. Emmanuel Macron convie tous les partis pour discuter de la question mercredi, je crois. Est-ce que le RN ira et qui ira?
Oui, nous sommes toujours présents. Là, je ne peux pas vous répondre sur qui sera présent aujourd'hui.
Allez, Jean-Philippe Tanguy, à vous maintenant pour votre photo de la semaine. Vous avez choisi cette image, un barrage hydroélectrique en Savoie. Pourquoi ?
Je l'ai choisi parce que malheureusement, au terme de cette semaine de débat sur l'énergie, où le Rassemblement national à l'Assemblée a quasiment passé 90% des mesures du programme de Marine Le Pen sur l'énergie, c'était encore très caricatural sur les attaques et sur ce qu'on propose. J'ai choisi ce barrage puisque l'énergie hydroélectrique, c'est la première énergie renouvelable française. C'est aussi la moins chère, avec 30 euros le mégawatt-heure. Hein. Pour donner d'idée, le solaire, c'est plus de 100 euros. L'éolien, avec tous les coûts, c'est plus de 80 euros. Le nucléaire, c'est entre 50 et 60 euros. Donc, c'est l'énergie la moins chère, la plus propre. Ça permet aussi de gérer, évidemment, l'eau. Et, contrairement à ce qu'on peut croire, il n'y a que le Rassemblement national qui, dans son programme, propose le développement de cette énergie renouvelable, propose son amplification à travers ce qu'on appelle des stations de pompage qui permettent de stocker l'énergie et à travers un plan de développement, puisque ça fait 20 ans que les investissements dans l'hydroélectricité sont bloqués à cause de l'Union européenne et de la faiblesse de nos gouvernements, parce que l'Union européenne veut nous obliger à privatiser les concessions de barrages et il est grand temps de reprendre le contrôle de ces barrages.
Jean-Philippe Tanguy, on va s'arrêter justement sur cette proposition de loi de programmation de l'énergie qui a été donc examinée cette semaine à l'Assemblée. Parmi les choses qui ont marqué cette semaine, c'est l'adoption d'un amendement LR avec donc les voix du RN. C'est un moratoire sur tout nouveau projet éolien et solaire. Alors moi, j'ai une question très simple. Quid des emplois qui seront affectés par ce moratoire, s'il est voté définitivement? Ça représente un peu, à peu près, la filière, c'est 80 000 emplois.
Oui, bon, ces chiffres sont très exagérés par le lobby, mais il y a des emplois, vous avez raison. Il faut les redéployer vers les autres investissements. C'est-à-dire, le Rassemblement national n'a pas fait voter la fin des investissements dans l'énergie, bien au contraire. Nous votons un redéploiement massif du nucléaire, un redéploiement de l'hydroélectricité, de la géothermie, l'amplification des pompes à chaleur, qui permettent la transition, notamment dans les bâtiments, dans la rénovation thermique. Donc, il y a beaucoup de filières industrielles à déployer. L'échec aussi des 20 ans de déploiement massif de l'éolien et du solaire, c'est quoi? C'est que la filière solaire française et européenne totalement disparue. Nous avons versé l'année dernière, pour toute l'Union européenne, 21 milliards d'euros à la Chine pour importer des panneaux produits dans des camps de travail dans le Xinjiang, produits avec de l'énergie, c'est des centrales
on
à charbon.
On ne peut pas dire que tout est un échec. L'éolienne offshore, par exemple, en France, c'est loin d'être un échec.
Il y a un seul parc, Madame Forêt, aujourd'hui.
C'est des milliards d'euros de gains, en fait, pour ce secteur-là.
C'est très, très faible, malheureusement, parce que les parcs offshore ont été lancés en 2007. Il y en a un seul qui a ouvert au large de la Boule. Il y en a un autre qui est en train d'être finalisé. Il y a très peu d'emplois par rapport à l'argent qu'on a mis. Et par ailleurs, subventionner pour subventionner, c'est pas le problème. C'est qu'est-ce qu'on est capable de construire comme filière. On a besoin d'emplois dans le nucléaire. On a besoin d'emplois dans la rénovation énergétique des bâtiments. Je vous donne un exemple. Si on avait mis pour la rénovation des bâtiments tout l'argent qu'on a gâché dans les éoliennes qui n'ont servi à rien pour la décarbonation, on aurait pu changer toutes les chaudières à fioul et toutes les chaudières à gaz par une pompe à chaleur et on aurait fait bien plus d'économies carbone. Donc le problème, c'est qu'en France, après avoir gâché 40 ans de débats complètement lunaires sur le nucléaire en racontant n'importe quoi alors qu'il y avait une urgence climatique et que la France avait un demi-siècle d'avance dans ses filières, on a encore perdu 20 ans avec des éoliennes et des photovoltaïques.
Stop deux minutes. Quand même, tout le message qui a été renvoyé cette semaine au cours des discussions, c'est la droite et le RN bloquent toutes les mesures qui ont été prises pour essayer de lutter contre le réchauffement climatique. Est-ce que c'est par climato-sceptisme? Est-ce que c'est parce que vous dites avant les municipales, il faut être bien avec ceux qui sont pas contents de ces mesures? C'est quoi votre position sur le réchauffement climatique aujourd'hui, alors qu'on voit des températures incroyables et qu'on voit que c'est une urgence quand même essentielle?
Mais c'est que c'est une urgence et que les solutions qui ont été mises par nos adversaires ne sont pas les bonnes. Alors, l'ironie veut que la première fois que vous avez eu la gentillesse de m'inviter il y a 3 ans sur ce plateau, on parlait déjà de ça. Et je vous avais dit les politiques punitives contre l'écologie, non seulement
c'est
ne marcheraient pas...
C'était d'une convention citoyenne, ça avait été débattu,
mais vous me posez une question.
C'était très démocratique,
ne marcherait
ces
pas.
Mesures.
Non, mais c'est pas très démocratique, il y a 80% mais des Français
punitif,
qui sont contre les
éoliennes. Pourquoi les éoliennes sont punitives?
Parce qu'il
c'est
faut
pas
les
de la
payer.
Philosophie.
Parce qu'il faut les payer.
Faut payer.
Non, il faut pas tout payer.
On a l'impression que vous avez un dogme sur
non,
les éoliennes,
justement,
parce que les gens trouvent que c'est pas beau, que ça fait du bruit.
Oui, par ailleurs, si vous habitiez à côté, je suis pas sûr que vous seriez heureuse. Oui, mais moi j'en ai 1000 dans mon département quand même, madame, avec des gens qui le vivent très mal et qui ont l'impression que la seule façon de les bloquer, c'est pas leur vie à eux, c'est la vie d'un certain nombre d'espèces animales.
Faut-il peut-être le négocier différemment pour l'implanter différemment?
Mais sur les éoliennes, il n'y a pas de dogme.
Vous, c'est niette quoi qu'il arrive.
Pas du tout, pas du tout. C'est l'inverse. On a toujours dit, les éoliennes peuvent être utiles dans des pays qui n'ont pas de filière nucléaire et pas de filière hydroélectricité. Par exemple, la Pologne, qui produit essentiellement son électricité sur le charbon, pourrait utiliser des éoliennes. Le problème de la France, c'est ce que dit Jean-Marc Jancovici, qui n'est pas du tout Rassemblement National, qui est beaucoup plus proche des partis de gauche, que vous recevez souvent sur France Inter, c'est qu'on a investi plus de 100 milliards d'euros pour produire de l'électricité bas carbone avec les éoliennes et photovoltaïques, alors que notre électricité était déjà bas carbone. Donc le dogme, il est là, madame. C'est qu'au lieu d'investir, je vous ai pas dit qu'il fallait rien faire, je vous ai dit, c'est de l'argent gâché, parce que pendant ce temps, on a pris du retard sur la rénovation thermique, on a pris du retard sur les véhicules propres, on a pris des retards sur la réindustrialisation verte. Donc tout cet argent, il pousse pas sur les arbres. Et donc, quand on choisit par dogmatisme, et vous le savez très bien, parce qu'il y a eu des rapports totalement objectifs là-dessus, de s'attaquer au nucléaire pour des raisons totalement électoralistes.
Après, il y a des difficultés concrètes. Là, il fait très chaud, par exemple, les centrales, c'est très compliqué de les refroidir. Est-ce que les épisodes de canicule vont être de plus en plus nombreux? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de se dire on va mettre un moratoire sur des énergies renouvelables qui peuvent pallier ce genre de problème?
Elle pallie pas, Madame Forêt, parce que quand le nucléaire, malheureusement, doit se baisser, effectivement, l'été, bon, on a besoin de moins de centrales, parce qu'on n'a pas besoin de chauffage par définition, et qu'on n'a pas déployé la climatisation dans notre pays comme on a le chauffage, les éoliennes, vous ne pouvez pas les allumer sur commande. Et les panneaux photovoltaïques, ils produisent essentiellement entre 9h et 16h. Donc tout ça est un mensonge d'État. Je m'étonne que ce soit pas encore mieux connu aujourd'hui. C'est pour ça qu'on veut développer les barrages. L'hydroélectricité, vous pouvez les employer quand vous voulez, et c'est beaucoup plus efficace. Les stations de pompage, il y a beaucoup de capacités en France, on le dit, et c'est assez étrange, parce qu'à chaque fois on nous reproche, vous avez dit vous-même, vous êtes contre les énergies renouvelables. Il y a 5 grandes énergies renouvelables. Donc il y a l'hydroélectricité, les éoliennes, le panneau photovoltaïque, la géothermie, l'aérothermie. On est pour 3 le développement massif de trois de ces énergies renouvelables.
On comprend.
Bah oui, d'accord, mais nos adversaires, eux, ils proposent pas de développer l'hydroélectricité, par exemple, et personne ne leur en fait le reproche.
Jean-Philippe Tanguy, le vote définitif, c'est mardi. Si le gouvernement arrive à réussir à enterrer ces mesures, quelle sera votre réaction ?
Bah, on le déplorera, parce que ce sera un manque de respect de la volonté des Français exprimée par leurs représentants, mais aussi dans un certain nombre de sondages. Mais on verra les conséquences qu'ils en tirent. Bon, si la loi, là, elle repart au Sénat, bon, c'est pas très grave. Si, par contre, le gouvernement prend prétexte du fait que cette loi n'est pas votée à l'Assemblée pour déployer la fameuse PPE3, le plan pluriannuel sur l'énergie, qui est à l'origine de cette loi, parce qu'en fait, excusez-moi de prendre un peu de temps, mais il voulait publier ce plan par décret, sans vote du Parlement. Marine Le Pen, seule contre les autres, a obtenu que ça passe devant le Parlement.
Donc
on ne veut pas juste passer devant le Parlement, on veut qu'il y ait un vote final. Donc ce n'est pas parce que cette loi serait rejetée par les macronistes qu'on accepterait que le décret soit publié.
Il se passe quoi
Décret est publié, la question de la censure se posera par Marine Le Pen et Jordan Bardella, parce que ce serait vraiment une mesure totalement autoritaire et contre l'intérêt de la France.
Mais sans chance d'aboutir, parce que la gauche ne la votera probablement.
Oui, vous avez parfaitement raison. Mais c'est quoi la conséquence de tout ça ? C'est que sur des choix qui engagent la France pour 10, 20, 30 ans, à cause des magouilles électorales de l'année dernière, il n'y a pas de majorité en France pour décider quoi que ce soit. Donc c'est aussi la difficulté de tout ça, c'est que oui, c'est aujourd'hui très dur d'engager la France sur des choix structurants, puisqu'il y a une chambre introuvable et il n'y a pas de majorité politique en France.
Allez Françoise, on passe à votre image. Le conclave retraite, c'est un peu une vieille photo, parce qu'il n'y a pas de photo très récente de ce conclave. Et puis cette fumée blanche qu'on attend toujours.
Alors, c'est une vieille photo où il y avait tous les participants.
Ouais,
depuis, plusieurs sont partis, la CGT, FO, et restaient mardi dernier les syndicats qui essayaient de chercher un compromis sur, au fond, le sujet essentiel, c'est à quelles conditions on peut quand même adopter la réforme à 64 ans, à quelles conditions, c'est-à-dire pour les femmes, pour la pénibilité. Alors, les syndicats qui restaient autour de la table ont forcément monté un peu les enchères parce qu'ils veulent pas se faire accuser d'être des traîtres par ceux qui sont en dehors du conclave. Le MEDEF s'est durci en disant c'est pas nous qui allons payer l'addition, on va pas augmenter le coût du travail. Donc, prochaine séance lundi, on sait d'ailleurs pas exactement si le MEDEF y sera ou pas, probablement oui. Et au fond, qui va payer la facture ? Le MEDEF a dit c'est pas nous. Donc est-ce que la facture va revenir entre les mains du gouvernement ? Si jamais les partenaires sociaux disent peut-être une augmentation de la CSG ou peut-être baisser les pensions des retraités les plus aisés. Donc c'est une patate dans les mains du gouvernement. Mais derrière, ce qui se joue quand même, c'est qui est capable en France de faire des compromis, sachant qu'on est quand même dans une situation budgétaire compliquée, qu'on est en risque de marginalisation sur la scène internationale. Et donc, il y a un moment actuellement autour de ce conclave, c'est est-ce qu'on reste bloqué pendant 2 ans dans une situation politique très compliquée ou est-ce que certains partenaires peuvent aider au compromis ?
Monsieur le Premier ministre, en janvier dernier, par écrit et devant la représentation nationale, vous preniez l'engagement de remettre en chantier la réforme des retraites en autorisant des discussions sans tabou, pas même sur l'âge de la retraite, c'était vos mots. Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons que vous teniez l'engagement que vous aviez pris, qu'il y ait un accord global et qu'il n'y ait pas des partenaires sociaux, que le dernier mot revienne au Parlement. Monsieur le Premier ministre, déposerez-vous avant la trêve estivale un projet de loi du gouvernement en ce sens, autorisant les parlementaires à faire leur travail de parlementaires et remplir les conditions pour lesquelles ils ont été élus. Si vous ne le faisiez pas, monsieur le Premier ministre, vous vous exposeriez, vous vous en doutez, à la censure.
Le député socialiste Boris Vallaud, c'était mardi, lors des questions au gouvernement à l'Assemblée. Et vous alors, Jean-Philippe Tanguy et le RN, qu'est-ce que vous faites si rien ne sort de ce conclave et surtout si ça ne revient pas devant le Parlement ?
Déjà, on espère encore qu'on aura un compromis. Il y a des choses intéressantes qui peuvent être négociées sur le droit des femmes. Les femmes qui ont travaillé dur ont aujourd'hui des vraies discriminations dans leur déroulement de carrière et la prise en compte de la réalité de leur travail dans la valorisation de leur pension. Moi, chaque semaine, j'en reçois des femmes d'artisans, des femmes d'agriculteurs ou des femmes de salariés qu'ont eu des familles et qu'on prend pas la retraite.
Mais s'il y a un compromis sans bouger facialement aux 64 ans, vous dites c'est bien ?
Ah oui, c'est bien.
Ça veut dire que vous dites c'est mieux que si c'était pire.
Et oui, tout à fait.
Parce que vous prenez pénibilité, même si c'est incomplet, vous prenez progrès pour les femmes en vous disant éventuellement décote 66, on verra, mais vous vous dites finalement le tabou, enfin ou le dogme des 64 ans, on y va quand même.
Nous, on l'a renvoyé à la présidentielle. On proposera aux Français toujours la retraite qui reviendra à 62 ans, mais ça sert à rien aujourd'hui de promettre quelque chose qui ne peut pas exister politiquement.
On sait très bien qu'à chaque fois on dit qu'on va le faire et qu'on ne le fait pas parce qu'on est bien content que les autres l'aient fait avant.
Toujours, malheureusement, le Rassemblement National n'a pas gagné les élections, donc on ne peut pas appliquer la médiocrité des autres à nous-mêmes. Mais les droits, on s'est approprié une vieille tradition de gauche qui est d'amener ce qu'on peut aux familles françaises et aux travailleurs. Et pas être dans la surenchère comme malheureusement aujourd'hui dans laquelle s'est enfermée une partie de la gauche, voire la totalité. Donc si je peux ramener des carrières plus justes pour les femmes, je prends. Si je peux ramener un an de moins de cotisation pour des personnes en invalidité ou en inaptitude au travail, je prends. Et on prend tout ce qu'on peut de concret pour les travailleurs français.
Ah mais comme il y a quand même des déficits, s'il y a ces avancées-là, il faudra les financer. Est-ce que, par exemple, vous dites CSG sur les retraités les plus importants, c'est acceptable? Ou moins de pensions pour les gros retraités, c'est acceptable pour vous ou pas?
Mais c'est surtout qu'il faut que le patronat prenne ses responsabilités au lieu de toujours se plaindre et exploite les talents des Français. Voilà, quand je vois à quel point les jeunes, la fin des études moyennes, c'est 22 ans, le premier emploi stable, c'est 25-26 ans, ce n'est pas normal.
C'est-à-dire embaucher
plus jeunes. Les seniors sont encore profondément discriminés. Vous enlevez les fonctionnaires, un certain nombre d'emplois protégés, tant mieux pour eux. Finalement, il y a encore beaucoup de seniors qui sont mis à la porte bien trop tôt. Et quelque chose qu'on ne dit jamais, les personnes en situation de handicap, qui peuvent travailler, qui ont des choses à apporter à notre pays, ne sont encore discriminées, ne sont pas employées comme elles le devraient. Donc en fait, nous avons beaucoup de gisements de personnes actives qui pourraient travailler, qui sont pas valorisées pour différentes raisons. On pourrait aussi parler des carrières des femmes. Et ça, on en parle. Le patronat n'en parle jamais. Donc moi, je veux bien avoir une discussion sérieuse avec le MEDEF et la CPME, mais il faut aussi qu'ils nous expliquent pourquoi, après 30 ans de promesses, il y a autant de Françaises et de Français qui sont à côté du marché de l'emploi alors qu'ils sont employables.
Moi, je veux juste comprendre, est-ce que la censure est exclue sur ce sujet? Parce que je vous avais pas complètement répondu à cette question.
Vous avez d'abord dit que ça peut s'arranger.
Ce qui est vrai, c'est que nous n'avons jamais mis la réforme des retraites, l'âge de la réforme des retraites comme une ligne rouge, parce qu'à partir du moment où on engageait des discussions avec M. Barnier puis avec M. Bayrou, c'était une ligne rouge de la Macronie. Donc vous ne pouvez pas avoir, entrer en négociation sérieuse, c'est pour ça que le PS d'ailleurs s'est aligné sur nous, en mettant la retraite comme une ligne rouge, sinon ça veut dire qu'il n'y a pas de discussion.
Veut dire, pour être très précis, s'il n'y a pas d'accord, et que la gauche dépose une motion de censure en disant on veut remettre en cause la retraite à 64 ans, vous suivez pas, vous?
Vraiment, ça dépendra de ce que M. Bayrou annonce par rapport à ce conclave. Parce que par contre, par rapport à la ligne rouge qu'on n'avait pas fixée, lui s'est mis tout seul dans une impasse en ouvrant ce truc et en baladant les Français. Et il y a quand même beaucoup de gens, moi je le vois sur le terrain, qui voyant ce conclave se réunir, ont eu de l'espoir. Et ça, c'est M. Bayrou qui... Est-ce que c'était pour gagner du temps?
Ça veut dire que si un texte ne repart pas à l'Assemblée... À ce moment-là, vous votez avec les socialistes?
Non, il n'y a pas d'automaticité, mais on veut voir ce que M. Bayrou...
On a l'impression que chacun propose une motion de censure en espérant que l'autre ne le fera pas. Je parle du PS et du RN. C'est une sorte de vote calibré, comme on faisait sous la 4e, en manifestant son opposition, mais en pensant pas que ça irait au bout.
Comme si personne n'avait vraiment intérêt à ce que ce gouvernement soit censuré, que ça puisse mener à une dissolution.
Si, mais nous, on a intérêt à censurer une mauvaise politique. Nous, on n'a aucune difficulté. Nous, on est prêts à gouverner.
Il y a une difficulté quand même. Si ça menait à une dissolution et que Marine Le Pen ne pouvait pas se représenter et qu'elle perdait son siège de députée, c'est une difficulté, non?
C'est sûr que c'est une injustice surtout. Mais ça, Marine Le Pen n'y a pas peur. D'ailleurs, je vous ai montré avec la politique énergétique qu'on avait mis de façon très claire et sans aucune ambiguïté la censure dans la balance. Que M. Bayrou... Il y a peut-être l'injustice que subit Marine Le Pen, mais enfin, il y a aussi maintenant une vraie menace pour les macronistes, c'est que la dissolution est aujourd'hui possible. Mais ce n'était pas le cas avec M. Barnier.
Voilà, mais dites-moi sur exactement les conditions de la censure pour vous. Vous dites, on attend de voir ce que M. Bayrou va faire. Qu'est-ce que vous attendez de lui pour ne pas le censurer sur cette affaire des retraites?
C'est pas une ligne rouge, mais je trouverais ça démocratiquement très inquiétant que M. Bayrou ne tire aucune conséquence politique et sociale d'un conclave qu'il a lui-même ouvert,
mais
c'est tout.
Dans l'absolu,
Non, mais c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une convergence des luttes, sans mauvais jeu de mots. Vous avez le problème des retraites avec quand même le mensonge de M. Bayrou, si jamais il n'en tire aucune conséquence sociale. Les annonces sur le budget qui vont arriver au 14 juillet, c'est demain, et la politique énergétique. Donc là, M. Bayrou, qui a mis la poussière sous le tapis, là, la poussière déborde complètement, et maintenant, il va falloir rendre
mais
des comptes.
Mais pour vous, le moment clé, c'est le 14 juillet, annoncé.
C'est la rentrée, c'est le 14 juillet. Ça dépend de l'ampleur de ce qu'il annonce le 14 juillet. Mais entre la politique énergétique, les retraites et le budget, là, M. Bayrou, il a un moment de vérité. Et il ne suffit pas de jouer Mendès France, il faut l'être.
Pour terminer sur les retraites, est-ce que vous pouvez nous assurer aujourd'hui que votre programme 2027 sera le même que le programme 2022 sur cette question?
Le même dans les détails, non, mais sur l'axe de départ, Rome à 62 ans, oui.
Ça vous y croyez vraiment, ça?
Oui, mais je pense surtout que c'est nécessaire par rapport aux conditions de travail des Françaises et des Français, avec des métiers très difficiles, qui font que maintenir les gens dans des travaux, y compris des métiers de service que les gens sous-estiment, les services aux personnes dans les EHPAD ou même auprès des enfants, qui sont physiquement très éreintants, de toute façon, ce n'est pas possible, et ça a des coûts cachés sur, au-delà du malheur que ça provoque chez les gens, ça a des coûts cachés sur le système social. Donc on pense que c'est une bonne réforme de le maintenir l'âge plus bas. Par contre, il faut de la justice par le bas, avec les gens qui doivent partir plus tôt, mais par le haut aussi. Effectivement, on ne s'interdit pas quand même de demander à des gens qui ont des carrières faciles plus d'efforts. Oui,
par exemple, plus d'efforts, c'est-à-dire...
C'est-à-dire que j'ai entendu l'histoire de partir à 66 plutôt que 67 ans pour ne pas avoir des cotes. Je ne vois pas l'objet de cette idée qui vient de la CFDT. Moi, j'ai eu la chance et l'opportunité de faire des études. J'ai un métier qui ne me fait pas porter de charges lourdes ou psychologiquement n'est pas pénible. Je ne vois pas pourquoi je partirais à 66 ans sans des cotes. Mmh. Et on est beaucoup en France dans ce cas-là.
Je vous demande ça parce que vous assumez quand même aujourd'hui une évolution de votre programme économique sur la rigueur budgétaire, par exemple. Une réflexion interne a été ouverte sur la règle d'or. C'est quand même une rupture avec votre ADN.
Ouais, c'est vrai que nous n'aimons pas limiter la liberté du Parlement, mais je suis bien obligé de prendre en compte deux phénomènes. Premier phénomène, quand il y a des efforts à faire, le système politique favorise des coupes sur l'investissement, ce qu'il ne faudrait pas faire, et laisse partir les dépenses de fonctionnement. M. Bayrou nous a annoncé 7% de hausse de la masse salariale de l'État dans une année soi-disant de rigueur. Bon, et les investissements ont été coupés, hein, la recherche fondamentale, les investissements dans l'agriculture d'avenir, l'industrie, je ne vous fais pas la liste, mais tous les dépenses d'investissement ont été sabrées alors qu'il faut faire l'inverse. Donc l'idée de cette règle d'or, ce n'est pas l'histoire de Bruxelles, ça ne m'intéresse pas ce que Bruxelles veut.
Qui est quand même la règle imposée par Bruxelles des 3% de déficit.
Oui, mais c'est surtout imposé par les marchés, en fait. C'est-à-dire qu'après 30 ans du traité de Maastricht, qui
donc,
avait mis ce sujet-là,
vous pliez
les
au
marchés. Mais c'est-à-dire, c'est pas moi qui me plie, c'est qu'on m'a mis dedans. C'est-à-dire, à partir du moment où les autorités françaises n'ont pas veillé à ce que la dette des Français soit possédée par des Français ou au moins des Européens, aujourd'hui, on a plus de la moitié de la dette française qui est détenue par des étrangers et en particulier des non-européens.
Là,
je finis ça. Et donc, ça veut dire que demain, on peut avoir une attaque spéculative à tout moment et vous pouvez fanfaronner, quel que soit votre parti, vous devrez payer très cher.
Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites par rapport au discours traditionnel du Rassemblement national, qui était d'abord contre la monnaie unique, ensuite contre les règles de bonne gestion? Est-ce que c'est la normalisation complète du RN qui est en train de se produire là?
C'est pas la normalisation, je l'espère pas en tout cas, parce que ça voudrait dire que je n'ai rien à faire là. Mais c'est là, comment vous dire, c'est le temps qui passe. C'est-à-dire que, vous savez, cette formule que François Mitterrand avait eue sur l'euro
et quoi,
pour l'Allemagne, que c'était un clou dans le
fait. Vous approchez du pouvoir, donc vous dites on ne va pas pouvoir, il va falloir quand même.
Non, Madame Forêt, ce n'est pas ça, c'est que des phénomènes s'installent avec le temps. La monnaie unique, ce n'est pas pareil d'avoir une critique de la monnaie unique en 2003, quand elle a un an, qu'en 2023, quand elle a 21 ans. Elle s'est installée. Critiquer, comment dire, avoir plus de liberté budgétaire quand la dette est à 1400 milliards d'euros, comme à la fin de Sarkozy, et pas à plus de 3200 milliards à la fin de Macron, c'est pas la même position.
Mais
et donc
fond,
en fait,
c'est pas reconnaître que vous êtes quand même bien trompé au début.
Pas du tout, non. Non, non, la monnaie unique, elle est toujours pas fonctionnelle malheureusement, mais le fait est que je peux pas en sortir. Donc François Mitterrand avait dit l'euro c'est un clou dans la main des Allemands, c'était aussi un clou dans la main des Français et je ne peux pas enlever le clou.
Et ça, cette évolution, elle vient de vous, parce qu'on sait que vous n'êtes pas exactement toujours le plus orthodoxe par rapport à tous les gens du Front National, du Rassemblement National, pardon. C'est quelque chose que vous poussez, vous avez l'impression qu'il y a un consensus global au sein du parti et de vos électeurs là-dessus, sur ce pragmatisme qui est de dire, écoutez, on fait avec ce qu'il y a et on essaie de faire avec le mieux possible.
Je pense que c'est surtout beaucoup de nos critiques ont sous-estimé à quel point Marine Le Pen travaille ses sujets de fond. Et,
donc elle évolue, travaille.
Voilà, et elle évolue quand, comment dire, un certain nombre de réalités font qu'une position qui était bonne il y a 20 ans ne peut plus l'être aujourd'hui. Et ce serait l'inverse, notamment en économie, qui serait inquiétant, c'est-à-dire... comment dire, agiter le moulin à prière sur des phénomènes qui changent profondément. On en a parlé du changement climatique, par exemple. Comment dire, faut tirer un certain nombre de réalités. Mais la philosophie, par contre, de la bonne gestion n'a pas changé au Rassemblement National. On avait toujours été pour sacraliser les investissements sur comment dire, les dépenses de fonctionnement, excusez-moi. Ce qui est vrai, par contre, pour pas me cacher derrière mon petit doigt, c'est qu'à partir du moment où vous êtes susceptible et vu comme ça par les marchés pardon ou par les puissances étrangères d'arriver au pouvoir, il y a un certain nombre de questions.
On peut plus dire n'importe quoi.
Non, c'est pas ça, mais il faut répondre à un certain nombre de questions précises.
Allez, on continue.
Sur lesquelles avant on nous attendait pas. Ça, c'est vrai.
On continue, Jean-Philippe.
Et c'est plutôt bon signe pour nous.
On continue. Je voudrais vous faire écouter Marine Le Pen. C'était cette semaine au Salon du Bourget. Elle est interrogée sur Caroline Parmentier, aujourd'hui députée, mais qui surtout était avant son attachée de presse et dont Mediapart a exhumé des écrits datant pour les plus récents de 2018 sur sa page Facebook. Elle y défend, entre autres, la théorie du grand remplacement ou le maréchal Pétain.
Ça peut être une fierté pour moi de me dire que j'ai arraché un certain nombre de personnes à ces pensées-là, à ce courant de pensées-là. Je pense que c'est aussi le rôle des politiques et que quand vous réussissez à faire ça, convaincre des gens que les pensées qu'ils défendent ou qu'ils développent sont erronées, voire inadmissibles, ben, vous avez rempli un des rôles qui est le rôle d'un dirigeant politique. Et donc, je ne peux évidemment que me réjouir.
Jean-Philippe Tanguy, croyez-vous sincèrement que Caroline Parmentier, qui est amie de longue date de Marine Le Pen et journaliste pendant 3 décennies au journal Présent, a évolué en quelques mois et changé ses idées en arrivant, en étant recrutée au RN pour faire la campagne présidentielle et pour être l'attachée de presse de Marine Le Pen?
Ah bah c'est plus qu'une évolution, c'est une rupture totale d'idées. Moi, Caroline Parmentier, c'est mon amie. Et quand je lis certains propos, et donc j'ai une pensée pour elle, évidemment. Quand je lis certains propos, ce n'est pas la femme que je connais. Et ce n'est pas non plus la femme qui me connaît moi.
Mais ça date de 2018. Mais on n'est pas en train de parler.
On dit que Mme Parmentier est homophobe. Il se trouve que j'ai eu un chagrin personnel privé dans ma vie privée. Tout le monde sait que je suis homosexuel. Caroline Parmentier m'a soutenue, m'a aidée. Et je n'ai à aucun moment vu un sentiment homophobe dans son comportement. Donc c'est vrai que la personne que j'ai pu découvrir dans ses propos, qui sont visibles, ce n'est plus du tout la même personne. Donc visiblement, ce que dit Marine Le Pen est tout à fait vrai. Et surtout la mission, et j'étais assez fier que Marine Le Pen la revendique ainsi, du Rassemblement National, qui est aussi de proposer à nos compatriotes une voie républicaine, une voie universaliste, et de faire rompre avec un certain nombre de gens, avec des idées qui seraient dangereuses pour la France, est aussi un des rôles du Rassemblement National, et on devrait s'en féliciter.
Il y a une accumulation, on a beaucoup parlé pendant les dernières législatives de ce que vous avez appelé les brebis galeuses, donc ces députés qui avaient eu des propos, enfin ces candidats qui avaient eu des propos inadmissibles à différents moments, dans le passé ou plus proche. Il y a ces groupes Facebook qui ont été révélés récemment par le journal, par le média Les Jours, où il y a eu des propos racistes ignobles tenus par des membres de ces groupes qui étaient administrés par des cadres ou des députés RN. Est-ce qu'à un moment, vous ne vous dites pas, on n'arrive pas à faire le ménage? On fait la promesse à chaque fois qu'il y aura un ménage de fait, ça ne marche pas.
Moi, je pense que c'est la dernière fièvre purge avant que la maladie soit guérie. Voilà.
Donc, vous êtes le parti qui dit préférence nationale. Est-ce qu'à partir du moment où vous affirmez, au fond, qu'on fait une discrimination selon la couleur de peau?
Ah non, il n'y a pas de couleur de peau là-dedans.
Ça n'attire pas obligatoirement, automatiquement, des candidats dont vous ne voulez plus aujourd'hui?
Quand Viktor Orban, votre allié, lors d'un meeting récent RN, parle des migrants en disant qu'ils viennent violer nos femmes et nos filles, est-ce que vous ne pensez pas que ce discours attise la haine?
Mais déjà sur la couleur de peau, il n'y a aucune proposition, et vous le savez, fondée sur l'ethnie ou les pseudos, la pseudo-race ou tout ce baratin. Voilà. Donc ça n'existe pas, et vous le savez. Voilà. Bon. C'est la nationalité, c'est pas l'ethnie présurelle ou présumée, c'est vous êtes français, vous avez des droits et des devoirs, vous n'êtes pas français, vous avez moins de droits, et même moins de devoirs aussi d'ailleurs, au passage. Donc ça n'a rien à voir, voilà. Que malheureusement, nous ayons chez nous des personnes qui n'auraient rien à voir avec nous et qui en plus, c'était très étrange, puisque s'ils écoutent le discours, ne devraient pas être chez nous. Je vais vous donner un exemple. Marine Le Pen, à plusieurs reprises, a dit « l'islam est compatible avec la République ». Vous suffit d'aller voir sur les réseaux sociaux pour voir à quel point cette opinion affirmée et réaffirmée provoque des réactions effectivement de haine contre Marine Le Pen. Et tout le monde peut aller voir sur les réseaux sociaux. Moi-même, sur le comité du 9 juin, donc qui est ces nazillons qui défilent chaque année
à Paris.
Paris. Je m'étonne d'ailleurs que ces groupes soient encore autorisés.
Ou des chaque anciens année, amis de Marine Le Pen avaient aussi
Mais effectivement, des ex-amis condamnés depuis. Chaque année, je demande avec Marine Le Pen la dissolution de ces groupes. Je monte, et tout le monde peut le vérifier aussi, au premier front, pour me battre contre eux. J'ai reçu plus de 60 menaces de mort. Il y a des plaintes qui sont en cours. Voilà, donc si ces gens nous menacent de mort, nous haïssent, c'est visiblement que nous n'avons pas l'agenda qu'ils souhaitent. Et je regrette aussi d'ailleurs au passage, parce que ce sont des menaces publiques, que quand ça concerne un élu du Rassemblement National, à savoir votre serviteur, il n'y a aucune solidarité du reste du paysage politico-médiatique. C'est-à-dire que quand un macroniste ou quelqu'un de gauche se fait menacer de mort, et c'est normal, on le soutient, enfin le fait qu'on le soutienne soit normal, évidemment, pas la menace. Quand c'est quelqu'un du Rassemblement National, que ce soit Yael Ménach de confession juive, ou moi-même qui se prend des torrents d'injures homophobes, là, il n'y a aucune solidarité.
Est-ce que vous considérez, vous avez parlé tout à l'heure d'une, en disant c'est un peu la dernière génération, c'est-à-dire il faut attendre que le temps passe, que tous les gens qui ont connu la guerre, la collaboration Vichy, et ceux qui ont pu y participer soient morts et leurs descendants aussi, qu'on ait fini avec la, qu'on en ait fini avec la guerre d'Algérie, si tant est qu'on en arrive un jour à en finir. Est-ce que ça ne veut pas dire que finalement c'est des hypothèses Bardella qui, elles, peuvent permettre d'avoir une forme de virginité, n'être pas comme la marque Marine Le Pen avec Jean-Marie Le Pen et tout le passif. Est-ce que ça ne veut pas dire que c'est ça l'avenir des gens comme vous, des gens comme Thomas Ménager, des gens qui n'ont jamais, été mêlés à ce genre de choses?
Mais toute cette génération est là parce que Marine Le Pen a fait ce travail historique incroyable.
Oui, mais est-ce que la personne qui a fait le nettoyage, elle est toujours entachée d'un certain nombre de choses, comme le disait Élodie tout à l'heure? Ça, c'est quand même bizarre que vous attiriez tout le temps les gens qui trouvent qu'Hitler c'était pas mal. Enfin, vous voyez, c'est effectivement, vous les virez, ceux que vous découvrez, mais c'est quand même quelque chose de récurrent.
Mais une fois plus, c'est Marine Le Pen qui a fait ce travail historique. Et d'ailleurs, ce qu'elle lui a coûté personnellement, et c'était dur, et je pense que au moins on pourrait lui reconnaître ça, parmi même nos adversaires les plus radicaux, pour au moins reconnaître ce courage à Marine Le Pen, mais ils ne le font pas. Moi aussi, le fait que le Rassemblement National soit le premier parti d'opposition, entre 30 et 40% des voix selon les sondages, et cette attitude affirme ses valeurs, affirme qu'on est systématiquement, malheureusement, quand on en découvre des gens. Je trouve que tout le monde devrait s'en féliciter. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Et ce n'est pas le cas de toutes les formations politiques, y compris en France, même si elles sont minoritaires.
C'est pas un raisonnement de dire c'est pas
mais
le cas
si,
dans tous
mais
les
si,
pays.
On devrait, mais si, parce que si le premier parti d'opposition jouer avec ses peurs, jouer avec cette haine, ce sera inquiétant. Au contraire, nous combattons ces haines et nous combattons ces dérapages.
Si le premier parti d'opposition que parce qu'il laisse un certain nombre de brebis galeuses nombreuses...
Mais non, c'est pas pour ça, ça nous empêche de gagner, vous le savez très bien. Par ailleurs, ça nous empêche de gagner. Évidemment, c'est une arme utilisée par nos adversaires pour nous empêcher de gagner. Et si on n'avait pas ces difficultés contre lesquelles on se déploie et qu'on fait tout pour ne plus les avoir, eh bien nous serions évidemment au pouvoir depuis longtemps et Marine Le Pen aurait pu appliquer son programme. Donc pour nous, au-delà du fait qu'on ne l'accepte pas sur le fond, sur la forme, c'est évidemment un poids qui est injuste de notre point de vue parce qu'on fait tout pour, et qui aussi est injuste d'ailleurs, je vais vous le dire, parce que je pense que si on allait chercher dans tous les autres partis, y compris des partis soi-disant républicains et centristes, on ne serait pas déçus, à mon avis, de ce qu'on trouverait. Croire que les dérapages ou les mauvaises pensées racistes, homophobes, misogynes, antisémites n'existeraient pas dans les partis du centre et de la droite ou du centre-gauche, eh bien c'est bien se leurrer sur la nature humaine, c'est bien se leurrer sur la nature humaine.
Jean-Marie Le Pen en est une grosse part quand même.
Hein. Je pense que vous connaissez bien, madame, les partis politiques français, je pense que vous en avez attendu de belles dans les coulisses aussi, et je pense que sous ces... Si vous deviez jurer, même sur des partis centraux, je vous rappelle que Raymond Barre, l'attentat rue des Rosiers, et des innocents qui sont morts...
C'était Copernic.
Voilà, on se souvient, c'était pas un dérapage, c'était une pensée profonde de la droite bourgeoise française antisémite.
On a parlé de Jordan Bardella. Comment vous allez vivre ces un an et demi qui viennent avec une candidate naturelle qui est sur la sellette et un dauphin qui doit se préparer, il n'a pas vraiment le choix, mais sans apparaître trop pressé, avouez que c'est assez inconfortable.
Bien sûr que c'est inconfortable, puisque Marine Le Pen est victime d'une injustice qui malheureusement... est difficile à gérer pour nous tous et pour elle en particulier, parce que quand vous êtes innocent, vous voir reprocher des choses, c'est particulièrement dur. Mais nous le faisons, nous continuons. Les sondages montrent que les Françaises et les Français n'ont pas perdu confiance dans notre programme et dans nos candidats. Et moi je suis quand même très fier qu'on ait deux candidats très populaires et capables de mener la France.
François. Sujet sur la ligne. On a vu cette semaine notamment beaucoup de votes qui convergeaient entre LR et le RN. Est-ce qu'on assiste en ce moment à un rapprochement entre le RN et la droite, et est-ce que c'est au fond la ligne Bardella qui est en train de prendre le pas sur peut-être la ligne Marine qui est plus populaire, disons?
Je ne crois pas, mais je pense que les Républicains surtout sont confrontés à une fin d'existence, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de ligne, ils n'ont plus rien à dire. Par exemple, sur le vote sur les éoliennes, en fait, c'est un amendement. C'est une manœuvre politique de ma part, je l'assume. J'ai laissé vivre un amendement LR qui était copié d'un amendement RN pour les choper et en fait pour les confronter à leur propre double discours. Parce que, juste pour qu'on comprenne, la loi qui venait du Sénat, donc de LR, était une loi favorisant les éoliennes et photovoltaïques et à l'Assemblée, les députés, quelques députés LR disaient le contraire, des sénateurs.
Donc on a bien parlé de ce sujet.
Je les ai coincés, mais moi j'assume, parce que la politique, c'est aussi révéler la vérité.
Moi j'ai une question simple pour terminer cette interview. Jordan Bardella a parlé d'une présidentielle anticipée. Il trouve ça souhaitable. Est-ce que vous trouvez ça souhaitable, une présidentielle anticipée, dans la situation dans laquelle est votre parti actuellement?
C'est pas une question dans laquelle est notre parti, c'est que ça n'existe pas, malheureusement, aujourd'hui, une présidentielle anticipée. Je vois pas du tout Macron abandonner le pouvoir.
Vous avez bien compris, il considère que c'est tellement le cirque, pour parler vulgairement, que ça pourra pas durer jusqu'à fin 2017. Il considère que ça se passera avant. Est-ce que vous partagez ce point de vue en disant, on voit mal comment ça tiendrait?
Non,
sans majorité, vous l'avez dit vous-même, sans budget.
Mais malheureusement, la Ve République est tellement forte pour le président de la République qu'il peut tenir assiégé. Regardez ce pauvre François Hollande qui était au fond de tous les trous possibles, imaginables. Il a tenu jusqu'au bout.
Donc Jordan Bardella ne maîtrise pas totalement les institutions de la Ve.
Non, c'est pas ce que je dis, même si je vois bien le sens de votre question, cette bonne guerre. Mais bien au contraire, mais il faut aussi arrêter d'analyser chaque mot. Et je veux dire, moi-même, ça m'arrive. Mais chaque fois, moi aussi, parfois, j'ai des mots de travers. Chaque mot est surinterprété, suranalysé.
On le fait avec tout le monde.
Comment ?
On le fait avec tout le monde, si ça peut vous rassurer.
Oui, un peu moins avec les macronistes.
Non,
c'est une blague, je rigole.
On interroge tout le monde sur ce plateau. Merci Jean-Philippe Tanguy. On accueille maintenant notre deuxième invité pour le livre de la semaine. Et nous accueillons François Hesbourg. Je vous laisse vous installer tranquillement. Vous êtes conseiller à la Fondation pour la recherche stratégique et vous publiez Le suicide de l'Amérique aux éditions Odile Jacob. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous parce que votre éclairage ce matin, il va nous être précieux, très précieux dans le moment que nous vivons. Les États-Unis, je le rappelle, ont attaqué cette nuit 3 sites nucléaires iraniens. C'est ce qu'a annoncé Donald Trump dans la nuit. Vous, comment vous analysez ce moment qui rompt, si j'ose dire, quand même, avec la politique menée par les États-Unis ces dernières années, une réticence à rentrer en guerre?
Alors, moi, mon angle d'analyse est un peu différent de celui que suggère au premier degré l'événement. Qu'est-ce que ça veut dire? L'événement, c'est le bombardement américain des sites nucléaires en Iran. Donc, on s'appesantit, ce qui est tout à fait normal et logique et justifié, sur l'impact que cela peut avoir sur le devenir de l'Iran, sur le devenir du Moyen-Orient. Mais vu de Donald Trump, ça s'analyse différemment. Ça s'analyse d'abord à travers son positionnement politique. Et
de son positionnement.
Son positionnement politique, c'est que depuis quelques semaines, il avait acquis une image qui lui collait à la peau, comme le sparadrap du capitaine Haddock, qui est l'image, ça se résume dans une formule américaine, qui est TACO. TACO, c'est Trump always chickens out. Trump, à la sortie, il se déballonne toujours.
Ce qu'il n'aime pas, j'imagine.
Il n'a pas du tout aimé lorsque un de vos collègues du Financial Times lui avait posé la question en conférence de presse il y a 3 semaines. Donc, pour lui, je pense que c'était, au-delà des problèmes très réels du Moyen-Orient, et c'était d'abord sa façon à lui d'affirmer le fait qu'il n'est pas taco.
Ou alors ça prouve qu'il n'est pas taco du tout et qu'on l'a mal jugé. Si je prends le point de vue du absolument opposé en disant, peut-être qu'il nous a bien menés en bateau pendant 15 jours en disant on y va, on n'y va pas.
Enfin, 15 jours, non.
Enfin, depuis, plus longtemps, depuis son élection.
Depuis son
spécifiquement sur l'Iran et l'intervention et Israël. Est-ce que ça ne veut pas dire que finalement, il a une vision beaucoup plus solide que ce qu'on a cru?
Depuis sa réélection, l'image taco est. Est là. Elle est, que ce soit sur la question des tarifs, que ce soit sur la médiation concernant l'Ukraine, que ce soit même sur la négociation qui apparemment se déroulait pas trop mal, suivant les négociateurs américains, je ne parle pas des négociateurs iraniens, jusqu'à la veille ou l'avant-veille des premiers bombardements israéliens. Et on était dans un registre, nous allons vers un accord avec l'Iran au Moyen-Orient. Et les changements, c'est précisément, entre guillemets, le contraire. Donc, alors sur le Moyen-Orient lui-même, qu'est-ce qui s'est passé?
Trump a donné à Netanyahou, à travers Netanyahou, à Israël, ce que ses prédécesseurs, notamment George W. Bush et plus naturellement Obama, avaient toujours refusé à Netanyahou et à Israël, à savoir la mise en jeu des fameuses bombes, les super bombes, les MOP qui ont fracassé le site souterrain de Fordo.
Est-ce qu'il prend un risque par rapport à l'opinion américaine qui n'est pas favorable dans sa grande majorité à ce que les États-Unis s'impliquent dans des conflits extérieurs ?
Oui, mais bon, Trump, à son crédit, ne gouverne pas seulement en fonction des sondages. Les sondages sont a priori défavorables.
C'est son programme aussi, il a été élu
absolument.
Sur l'America First.
Ben bien sûr, la planète MAGA, elle l'a élu en très grande partie à partir de ses mots sur plus de guerres incessantes.
Plus de morts aussi à l'étranger, mais là on n'est pas dans ce cas-là.
Voilà, no more forever.
On envoie des bombes.
No more forever wars. Or là, et il court le risque de faire le contraire. Il court le risque, je ne dis pas qu'il fait le contraire, parce que bon, j'ai écouté attentivement, comme tout le monde, ses propos cette nuit. Oui, il est prêt à en remettre une couche, clairement, il l'a annoncé, mais il n'a de toute évidence pas envie de se lancer.
C'est pas l'Irak, quoi.
Exactement. C'est pas, à ses yeux, c'est ni l'Afghanistan, ni l'Irak, ce en quoi il risque effectivement de se tromper.
Est-ce que vous pensez qu'il y a une coupure totale entre l'Europe et Trump, ou qu'il peut y avoir un partage des rôles, au fond, ou est-ce que l'Europe, à un moment, peut rentrer dans la négociation ?
Vous posez la question qui tue, parce que l'Europe, elle va être au pied du mur par rapport à cette question dans 2 jours. Le sommet de l'OTAN à La Haye commence dans 2 jours. Trump est supposé venir. Les Européens vont soit afficher leur solidarité avec l'action américaine, comme il l'avait déjà fait avant l'action américaine, en condamnant au siège de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, les Européens et les Américains ensemble, avec la majorité d'ailleurs des États membres, avaient condamné le comportement de l'Iran en matière de prolifération nucléaire. Et en même temps, les Européens, et j'emploie à dessein cette expression très macronienne, les Européens veulent s'opposer en faiseurs de paix, qui veulent éviter l'escalade, c'est-à-dire pas l'affichage de la solidarité dans le recours aux armes. Et ça risque de se payer d'un prix très élevé à La Haye, dans le cadre de l'OTAN.
Oui, le prix, c'est les dépenses militaires, d'ailleurs. C'est les 5% d'effort du PIB. Je voulais juste vous faire réagir là-dessus, Jean-Philippe Tanguy. Donald Trump, qui veut que tous les pays membres de l'OTAN augmentent leurs dépenses militaires à hauteur de 5% du PIB. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous trouvez ça OK ? Vous trouvez ça jouable ?
Non, c'est pas jouable. 5%, c'est excessif. Déjà, si on arrivait à respecter les 2%, voire 2,5%, ce serait bien. Mais il faut qu'on le fasse pour nous, voilà, et pas pour faire plaisir à Donald Trump, évidemment. Ce qui est sûr, c'est qu'un certain nombre de pays européens, depuis trop longtemps, se sont achetés une protection, non pas par leur propre souveraineté, mais par la protection américaine, et en particulier des pays très riches, comme l'Allemagne et l'Italie, et que la France et le Royaume-Uni étaient un peu tout seuls à essayer à la fois de respecter leur engagement au sein de l'OTAN, mais aussi de garder une armée le plus opérationnelle possible par rapport aux États-Unis.
Allez, je reviens un petit peu à votre livre, François Hesburgh, qui s'intitule « Le suicide de l'Amérique ». C'est quand même un titre fort et qui s'ouvre sur votre description du discours de Munich de J.D. Vance, le vice-président américain auquel vous avez assisté. Et vous dites, j'ai plus la forme exactement en tête, qu'il en faut beaucoup pour vous surprendre, mais que là, quand même, ça vous avait laissé complètement pantois.
Comme beaucoup d'autres.
Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là
pour vous ? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a rompu avec 75 ans de relations américano-européennes. Alors, ça ne veut pas dire que des évolutions n'étaient pas souhaitables ou envisageables, mais là, c'était un discours de rupture. avec des accusations, d'ailleurs gravissimes et surprenantes, contre le Premier ministre britannique soupçonné de complaisance vis-à-vis des pédophiles, et les Roumains qui avaient eu le malheur à ses yeux de ne pas autoriser un candidat soutenu par Poutine à se présenter, et c'est effectivement un autre candidat qui a été élu, il a attaqué comme ça toute une série de pays, pas la France d'ailleurs, c'est peut-être la seule exception. C'était vraiment un discours de rupture. Mais sur la question des dépenses militaires, hein, je reviens là-dessus, il faut augmenter les dépenses militaires dans notre pays comme dans d'autres, parce que la situation internationale est ce qu'elle est, et non pas parce que M. Trump nous le demande. On ne coupera pas un engagement sur 3,5% parce que c'est à peu près le niveau qu'il va falloir si on veut effectivement dégager une certaine autonomie stratégique vis-à-vis des États-Unis. Et le paradoxe, c'est qu'il faut faire, il va falloir que nous fassions ce que dit Trump précisément pour éviter d'être dépendants par rapport à Trump. Les 5% forget-it pour une raison d'ailleurs assez simple qui n'a rien à voir avec les considérations politiques, financières ou autres en France, c'est que les États-Unis font 3,4%. Alors quand on fait 3,4%, on est mal placé pour dire « va falloir que ce soit 5 ». Et d'ailleurs, la Maison-Blanche commence à être embarrassée parce que les alliés se retournent quand même disant « mais et vous, votre porte là, elle est comment? Vous balayez devant ou pas ?» Et la réponse est non. Alors, ce à quoi évidemment les Européens répondent. Ben c'est bien sympathique, mais vous êtes une superpuissance avec des intérêts qui sont plus que régionaux, et vous voudriez que nous, on en fasse plus que vous. Tout ça ne tient pas debout. Bienvenue au monde trumpien, qui est un monde où les États-Unis perdent leurs amis, perdent leurs alliés. Ce n'est pas une puissance isolationniste, comme les événements des 24 dernières heures nous le montrent, mais c'est une puissance qui s'isole. Et c'est pas pareil.
Est-ce que c'est irrémédiable? Parce que c'est ça, quand on lit votre livre, on se dit, est-ce que c'est temporaire? Est-ce que finalement, on est tellement imprégné, et les États-Unis sont tellement puissants, notamment sur leurs forces militaires, est-ce que tout ça, finalement, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un effondrement de l'Empire américain?
Non, moi, je parle pas d'effondrement, je parle de suicide. C'est pas pareil. Hein. Vous pouvez être très forte et sauter d'un pont. Ce n'est pas une question d'effondrement, c'est un choix. Mmh. Le choix américain est celui, effectivement, de ne plus assumer le fardeau de l'Empire. C'est, en bref, c'est ça la thèse fondamentale de mon livre. La force militaire, à 3,4% du PIB, vous ne tenez pas la route très longtemps dans un monde où il y a des puissances comme la Chine, comme la Russie, et le cas échéant, les Européens, s'ils font 3,5%. Ça ne tient plus debout. Et quant au dollar, qui est l'élément le plus important de la puissance américaine depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, aux côtés de la force militaire, le dollar, Monsieur Trump a fait plus pour affaiblir le dollar au cours des deux derniers mois que l'action conjuguée des partisans de la crypto, du yuan chinois, de l'euro ou de l'or.
Je voudrais juste savoir, on n'a pas encore. Alors il y a quelque chose. Il y a un conseil de défense qui va être réuni manifestement aujourd'hui, ce soir. Est-ce que pour l'instant, on ne sait toujours pas s'il y a une réaction européenne, il y a des réactions isolées. Il y a celle de Jean-Noël Barrot qui dit que Paris est préoccupé par les frappes américaines et qui exhorte à la retenue. Est-ce que vous trouvez que c'est la bonne attitude de « on regarde, on s'inquiète, on voudrait que ça s'arrange, on voudrait la diplomatie, mais d'un autre côté, on est dedans sans y être » Quelle serait la bonne position à votre avis pour la France, et y en a-t-il une en Europe? En tout cas, s'il y en a une, elle met du temps à venir. Il va falloir la trouver d'ici trois jours.
D'abord, et j'hésite à le dire devant les artisans de la parole que vous êtes, politiques ou médiatiques, c'est qu'il y a des moments où il est intéressant de ne pas s'exprimer. Que peuvent faire les Européens?
On n'a pas l'habitude, c'est pour ça.
Ben oui, on n'a pas l'habitude. Hein. Il faut toujours qu'on cause.
Hein. Avec Twitter.
Quitte à être soit démenti par les faits, comme l'a été la phrase du président Macron il y a deux jours sur le thème l'Europe va pousser pour que, etc. Mais l'Europe n'a rien poussé du tout et on a eu la frappe américaine.
On est d'accord, on a raison de ne pas prendre parti.
Les Européens n'ont pas plus d'intérêt à rentrer dans ce jeu-là que les Chinois ou les Russes, qui sont beaucoup plus, qui ne se posent pas la question de savoir ah mais est-ce qu'il ne faudrait pas que l'on prenne position.
Bon, est-ce que ce sont des intérêts économiques pour là?
Ils sont de tous ordres, économiquement ou stratégiquement. Les Européens, leur premier intérêt, c'est d'éviter qu'il y ait une cata à la haie au sommet de l'OTAN.
Et on suivra ça très attentivement.
Et dans ce cas-là, il vaut mieux effectivement soit éviter les effets de manche, soit d'apparaître comme étant impuissant. La bouclée n'est pas forcément la plus mauvaise solution.
Merci beaucoup. Effectivement, Emmanuel Macron réunira bien un conseil de défense ce soir sur les frappes américaines en Iran. Merci beaucoup, François Hesbourg. Votre livre, Le suicide de l'Amérique, paraît la semaine prochaine aux éditions Odile Jacob. Merci, Jean-Philippe Tanguy. Et
merci, bon dimanche.
Merci à toute l'équipe de Questions Politiques, à Maury Baucher et Fabienne Lemoyle. La semaine prochaine, Karine Bécard de retour aux manettes. Et d'ici là, très bon dimanche.